d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Là, on doit rouvrir avec, je le sais, des incertitudes. Donc les maires, je comprends leur angoisse, je comprends leurs questions, leurs inquiétudes.
Emmanuel Macron veut apaiser les inquiétudes sur l'école à moins d'une semaine maintenant d'une rentrée qui s'annonce périlleuse et qui inquiète beaucoup les enseignants, les parents d'élèves, mais aussi les élus. Pour ce déconfinement, Paris choisit de faire de la place aux cyclistes et aux piétons. La capitale aménage l'espace public. Elle redoute que la défiance vis-à-vis des transports collectifs ne précipite les Parisiens dans leur voiture. L'application Stop Covid devrait finalement être lancée le 2 juin pour savoir si l'on a côtoyé ou non une personne testée positive au Covid-19. Mais ce sera sans Apple et sans Google. À partir du 11 mai, on pourra de nouveau voyager, mais à 100 km maximum autour de chez soi. Ruée en vue sur la campagne. Lundi prochain, ce sera également le retour du sport. Vous pourrez de nouveau jouer au tennis, par exemple. Mais attention, là aussi, les règles seront strictes. On verra ça avec Axel May. Pas question, par exemple, de ramasser la balle de votre partenaire. Chacun la sienne. Notez qu'à 22h20, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Philippe Favre, le président de GoSport. Et puis quand des comédiens privés de théâtre choisissent de faire vivre les grands textes sur Internet.
Dans l'obscurité, je vois notre maison et ma frayeur s'évade. Il me faudrait pour l'ambassade quelques discours prémédités. Je dois, aux yeux d'Alcmen, un portrait militaire du grand combat qui mène aux ennemis à bas.
Et vous aurez peut-être reconnu Guillaume de Tonquédec. Davantage de soleil demain sur la France. Légère accalmie avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis la Bourse de Paris a fini sur un net rebond de 2,40%. Didier Hamot de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Combien d'élèves vont-ils retrouver le chemin de l'école dès la semaine prochaine? On sait que l'objectif reste de rouvrir un maximum de classes, mais pas n'importe comment, bien sûr. Emmanuel Macron promet de la souplesse et veut calmer les réticences et les inquiétudes. Le président a d'ailleurs pris le temps ce matin, lors de sa visite dans un établissement de Poissy, dans les Yvelines, du temps pour rassurer Adrien Beck.
Oui, rassurer et en même temps montrer qu'une rentrée est possible. Masque en tissu sombre sur le visage, Emmanuel Macron a donc visité un établissement qui n'a pas fermé pendant le confinement. 30 enfants de soignants actuellement dans cette école Ronsard, des tables espacées et des élèves avec qui le président a échangé.
Alors qu'est-ce que c'est les gestes barrières?
Il faut se laver très régulièrement les mains, tousser, éternuer dans son coude.
Oui.
Utiliser des mouchoirs à usage unique et après il faut les jeter.
Très bien.
J'ai appris la pub par cœur.
Voilà pour l'école modèle. La réalité est en fait plus compliquée. Difficile d'envisager une rentrée le 11 pour beaucoup de maires. Emmanuel Macron a échangé avec 5 d'entre eux en visioconférence lors de ce déplacement. J'ai le sentiment de jouer à la loterie, s'est inquiété l'un d'eux. Alors le chef de l'État, à la télévision peu après, s'est adressé aux élus.
Je comprends leur angoisse, je comprends leurs questions, leurs inquiétudes. Mais ils veulent bien faire. Et donc il faut leur laisser le temps de bien faire et la souplesse. Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre.
Une clarification nécessaire après une communication contradictoire. Hier soir encore, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, l'assurait. Et si c'est possible de rouvrir à certains endroits, c'est que ça doit être possible à peu près partout.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Alors Emmanuel Macron a-t-il convaincu les élus locaux que l'on savait réticents? Arnaud Péricard est le maire de Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne. Il faisait partie de ceux qui demandaient un report de la rentrée et il a pu échanger cet après-midi avec le chef de l'État.
Je suis rassuré par rapport à ses propos, notamment sur ce règlement sanitaire qui nous est un petit peu tombé dessus comme le ciel la semaine dernière. 65 pages de normes et de contraintes, ça complexifiait un petit peu la donne. Et puis surtout, qu'allait-il se passer si jamais ce protocole venait à ne pas être respecté? Quelle était notre responsabilité? Donc beaucoup de questionnements et aujourd'hui le président de la République a été assez clair et assez précis en disant que ce protocole c'était avant tout un guide de bonnes pratiques dont il fallait s'inspirer. La clé en tout cas c'est la souplesse et la progressivité dans la mise en place des mesures.
Le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, joint pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois. Édouard Philippe a lui été interpellé sur sa gestion de la crise cet après-midi à l'Assemblée. « Tout le monde fait mieux que nous », lui a lancé le président du Parti Les Républicains, Christian Jacob, qui a notamment cité l'exemple de l'Allemagne. Le Premier ministre a répondu qu'il attendait avec sérénité la comparaison de sa gestion avec celle des autres pays européens et il a promis à la fin de tirer les leçons nécessaires. À Paris, le déconfinement s'annonce particulièrement lent et particulièrement prudent. En tout cas, la mairie a commencé aujourd'hui à en préciser les contours. Pas de rentrée scolaire dans la capitale avant le 14 mai. Par ailleurs, pour garantir la distanciation entre les passants, c'est le visage de la ville qui va changer, Romain Oquet.
Oui, une transformation pour donner la priorité à la marche à pied et au vélo. Les travaux ont déjà commencé. Dès lundi, une trentaine de rues de la capitale sera réservée aux piétons, autour des écoles ou dans les quartiers commerçants. La rue de Rivoli aussi ne sera plus accessible aux automobilistes. Les cyclistes, eux, pourront profiter de près de 200 km de pistes provisoires à Paris et en proche banlieue. L'objectif pour Christophe Nadjovski, adjoint au transport, c'est d'éviter de surcharger les routes.
Il est clair que la voiture ne saurait être une option. Si on prend l'exemple de la ligne 13 du métro, si seulement 10% de ses usagers se reportaient vers la voiture individuelle, c'est une fois et demie le trafic que l'on avait auparavant sur les berges de Seine. Donc ce serait l'équivalent d'une autoroute urbaine de 3 voies de circulation en plein cœur de Paris.
La mairie a aussi annoncé la reprise dès mardi de tous les marchés, qu'ils soient couverts ou en plein air. Pour les parcs et jardins, là c'est plus compliqué. La ville espère pouvoir en ouvrir certains la semaine prochaine, ceux sans aire de jeu, des structures impossibles à désinfecter. Pour les masques en tissu commandés par la ville, la distribution commencera le 11 mai dans les pharmacies. Pour les récupérer, les Parisiens devront utiliser des bons de retrait avec des créneaux horaires précis, des coupons disponibles sur le site de la ville, un système de régulation pour éviter la cohue en pharmacie.
Précision signée Romane Oquet. Elle n'était pas prête et elle avait même disparu des plans de déconfinement. La controversée application mobile Stop Covid, destinée, vous le savez, à nous prévenir lorsque nous aurons été en contact avec un malade. Eh bien, Clément Le Saffre, finalement, le gouvernement annonce aujourd'hui qu'elle sera prête le 2 juin.
Tout à fait, le secrétaire d'État au numérique Cédric O estime qu'il faut prendre le temps de développer une bonne application et par ailleurs que le déconfinement soit un peu avancé pour que Stop Covid se montre réellement utile. Le sujet est sensible, notamment en ce qui concerne la protection des données des utilisateurs et c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a finalement rejeté la solution développée par Apple et Google. Il y a eu des discussions sur ce que souhaitait le gouvernement d'un côté et ce qu'Apple et Google étaient prêts à mettre sur la table de l'autre, mais aucun terrain d'entente n'a été trouvé. La lutte contre le coronavirus, c'est l'affaire des États, pas celle des grandes entreprises américaines, a tranché Cédric O. Le défi sera donc de faire fonctionner Stop Covid sur tous les téléphones sans l'aide de Google et Apple. Dès cette semaine, des tests techniques vont être réalisés, puis la semaine prochaine, il y aura de premiers tests sous cloche pour reproduire des situations du quotidien. Objectif, par exemple, tester le repérage des téléphones de personnes malades dans une foule, comme on en trouve dans les transports en commun. Enfin, la semaine du 18 mai, seront conduits des tests en conditions réelles avec des volontaires. Si ces essais sont probants, l'application sera soumise au Parlement aux alentours du 25 mai et, sous réserve d'un vote favorable, déployée en France à partir du 2 juin.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Les malades du coronavirus et leurs proches pourront se voir distribuer sur ordonnance 14 masques chirurgicaux par semaine. À partir du 11 mai, les soignants libéraux, les dentistes, les infirmiers, les médecins en recevront quant à eux 24 par semaine. Le chômage partiel sera maintenu à taux plein après le 1er juin. Pour certains secteurs seulement, ceux qui devront rester fermés comme l'hôtellerie ou bien la restauration. En revanche, pour les autres, le gouvernement entend réduire les aides. La ministre du Travail Muriel Pénicaud s'en expliquera sur Europe 1 demain matin, puisqu'elle sera l'invitée de la matinale de Mathieu Béliard face à Sonia Mabrouk et qu'elle répondra ensuite à vos questions que vous pouvez lui poser au 39-21.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et il est trop tôt pour dire si on pourra avoir des vacances cet été. C'est ce qu'a dit aujourd'hui Emmanuel Macron. On le saura seulement début juin, avertit le président, qui prévient que les grands déplacements internationaux seront limités, même pendant ces vacances d'été. Alors sans aller en avion au bout du monde, notre quotidien, en tout cas pour les prochaines semaines, ce sera donc 100 km maximum autour de chez nous. Alors c'est peu, mais c'est mieux que rien. Et les Français commencent à s'organiser pour les prochains week-ends, avec surtout pour les citadins une envie pressante de se mettre au vert, bien sûr. Du coup, les hébergements de proximité sont pris d'assaut, Pierre Herbulot.
Oui, comme à Bourdonnais, à 69 km, très précisément du centre de Paris. C'est là, au fin fond des Yvelines, presque en Eure-et-Loire, qu'Audrey tient un gîte. Une grande maison en pierre avec jardin en pleine nature, idéale pour les ponts du mois de mai. Oui, sauf que...
Moi, mon hébergement, en tout cas le gîte, est complet jusqu'au 9 juillet.
Depuis l'annonce de la limite des 100 km la semaine dernière, le téléphone sonne tous les jours.
Les week-ends de l'Ascension, ou même deux jours, j'ai beaucoup de demandes. Toujours la cible, plus ou moins, de petites familles habitant Paris, qui veulent un environnement vert pour des enfants, qui puissent avoir un jardin. Mais malheureusement, je n'ai pas la place, moi.
Les places d'hébergement ne seront pas un problème. Pour Philippe et sa femme, ces deux Vendéens sont camping-caristes. Ils sont en train d'imaginer des circuits vie autour de chez eux.
100 km, on a la ville de La Rochelle qu'on on aime bien se promener. Côté nord, retourner sur l'île de Noirmoutier. Et puis peut-être aller faire un tour à Nantes. On va profiter de cette période qui va aller du 11 mai jusqu'à, je sais pas, début juin, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir découvrir ce qu'il y a autour de chez nous, dans ce fameux rayon de 100 km.
Alors, c'est vrai que ça a moins de cachet que la Hollande, l'Italie ou la Croatie, dernière destination du couple. Oui, mais comparé au pâté de maison des deux derniers mois, c'est l'aventure.
C'est beaucoup mieux en effet. Pierre Herbulot, le député Les Républicains des Côtes d'Armor, Marc Le Fur, a interpellé le gouvernement cet après-midi sur l'interdiction d'accès aux plages. La plupart des départements littoraux sont en vert, a-t-il dit. En quoi les plages seraient-elles plus dangereuses que les transports en commun ou bien les grandes surfaces? Réponse de la secrétaire d'État concernée, dès que l'accès aux plages sera rouvert, il y aura un souhait de s'y rendre en nombre. Or, c'est un espace difficile à surveiller. Elle souligne toutefois que cette interdiction sera réexaminée le 1er juin. Ce soir, les médias américains indiquent qu'Airbnb aurait décidé de licencier un quart de ses employés dans le monde. À l'heure où les commerces en France se préparent à rouvrir, le monde de la culture, lui, est toujours dans l'incertitude et regrette d'être la dernière roue du carrosse. Les théâtres, les cinémas aimeraient beaucoup rouvrir, bien sûr. Des mesures seront annoncées demain par Emmanuel Macron. Elles sont évidemment très attendues. La grande question pour le secteur, c'est d'arriver à appliquer les règles sanitaires dans des lieux où convivialité rime avec promiscuité. En attendant, les comédiens font vivre à leur manière les grands textes par Internet. C'est une sorte de challenge. Des artistes célèbres ou moins célèbres d'ailleurs ont enregistré en vidéo depuis chez eux de courts extraits des grands passages du théâtre classique français. Et ils les ont publiés sur les réseaux sociaux avec le hashtag « À vous de jouer ». Juste un mot.
Molière par Guillaume de Tonquédec.
Enfin, dans l'obscurité, je vois notre maison et ma frayeur s'évade.
Corneille par Philippe Lelièvre.
Au rage, au désespoir, au vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et Racine par Nicole Croisille.
Un trouble important vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours.
Il faut choisir parmi ces trois auteurs classiques. C'est la règle. Certains visages sont plus familiers que d'autres, mais tous jouent le jeu.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier.
Dans cet extrait de L'avare de Molière, le comédien Pierre Val apparaît en premier plan sur fond noir, le visage obscurci par la nuit, c'est très réussi. En fait, au départ, l'idée vient d'Angleterre, où des artistes ont déclamé des vers de Shakespeare sur les réseaux sociaux. Le comédien Nicolas Briançon, à l'origine d'À vous de jouer, s'est dit « Et pourquoi pas nous ?»
Les Anglais au Shakespeare, mais nous, on a Molière, Racine, Corneille. Et je me suis dit « C'est une jolie idée de s'appuyer sur ce socle qui est un socle de culture commune. C'est agréable de prendre le temps d'écouter deux minutes d'une langue absolument magnifique. »
Ses amis ont d'abord répondu à l'appel, mais aujourd'hui, il est submergé par les vidéos qu'il reçoit. La preuve, s'il en fallait une, de l'impatience qu'ont tous ces artistes de remonter sur scène et de jouer.
Et on imagine leur impatience et la nôtre en même temps. L'actualité, c'est aussi l'hémorragie qui se poursuit dans l'aérien. Après Ryanair, c'est Virgin Atlantic qui va supprimer 3000 emplois. Les compagnies aériennes mettent en garde contre les mesures de distanciation physique qui pourraient faire grimper, disent-elles, le prix des billets de plus de 50%. Le Royaume-Uni est désormais le deuxième pays le plus touché au monde en termes de mortalité derrière les États-Unis, avec 32 000 décès davantage donc qu'en Italie. La Russie a, elle, enregistré aujourd'hui un nouveau bond de plus de 10 000 nouveaux cas en 24 heures, on parle bien de cas et pas de décès. Une progression de la pandémie bien plus rapide qu'ailleurs en Europe. La mortalité, elle, en Russie, est relativement faible, avec pour l'instant 1451 morts d'après les chiffres officiels. La Bavière, le plus grand État allemand, va rouvrir ses restaurants d'ici la fin du mois, annonce ce soir. En Italie, des joueurs de la Juventus Turin ont retrouvé aujourd'hui leur centre d'entraînement pour des séances individuelles. En attendant, la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, qui est revenu hier soir de son île natale de Madère. L'Union cycliste internationale a publié son calendrier cet après-midi. Elle prévoit près de 25 courses entre début août et fin octobre. Ça va se bousculer. Le Tour de France, lui, est toujours programmé du 29 août au 20 septembre et la classique Paris-Roubaix le dimanche 25 octobre. Et puis beaucoup d'entre vous ont sans doute très envie de pouvoir reprendre le sport après ces semaines d'inactivité, même si comme moi vous avez essayé de bouger un peu à la maison. Eh bien du sport, on va pouvoir en refaire un peu plus librement après le 11 mai, mais de façon néanmoins encore très encadrée, pas de sport collectif bien sûr. En revanche, on pourra rejouer au tennis, mais avec des règles très strictes, Axel May.
Oui, la Fédération française de tennis vient juste d'envoyer à tous ses clubs le protocole de reprise qu'elle a préparé avec le ministère des Sports. La pratique loisir va donc pouvoir reprendre, mais uniquement en simple, pas question de faire des doubles, et seulement sur des terrains extérieurs pour être à l'air libre. Alors concrètement, la Fédération française a réalisé un poster pédagogique que vous pouvez retrouver sur son site internet. Il faut par exemple arriver déjà en tenue de tennis, lors des changements de côté, passer de part et d'autre du filet pour ne pas se croiser de près, ou encore ne pas toucher les balles de l'adversaire, comme l'explique Françoise Poulain, présidente du cercle Jules Ferry, près d'Orléans.
Chacun va venir avec sa boîte de balles. Si c'est la même marque, eh ben, ils mettront une marque de couleur dessus. Hein. Bon, il y a plein de choses auxquelles ils font penser. Mais effectivement, on a la chance d'être un sport qui peut se faire en extérieur, qui a beaucoup moins de contraintes que d'autres sports. Hein.
Alors, cette présidente de club reconnaît que cela sera trop juste pour rouvrir dès le 11 mai, mais espère le faire le plus rapidement possible. Notez aussi que selon les clubs, les cours individuels encadrés par un enseignant diplômé d'État seront en principe également autorisés, ainsi que l'entraînement pour les joueurs de haut niveau.
Chacun sa balle donc. Précision signée Axel May du service des sports d'Europe 1. On voit tout de suite la météo avec vous Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, temps calme sur presque toute la France.
Oui, alors presque sur toute la France, et vous avez raison de le dire Isabelle, puisque demain sur la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Auvergne et la Franche-Comté, la journée va commencer avec des nuages bas, des brumes et des brouillards. Sur les côtes varoises et la Corse, nous aurons là des entrées maritimes, mais toutes ces grisailles vont se dissiper très vite au fil des heures pour laisser place demain après-midi au soleil sur donc presque tout le pays. Vous avez envie de savoir où le mauvais temps va arriver? Je vais vous le dire dans un instant. Sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes, là les averses d'altitude vont se déclencher. Le Mistral se lève aussi, hein. Demain il va souffler jusqu'à 60 km/h. Sur tout le pays, vous l'avez compris, le soleil brille, sauf sur la Bretagne demain, et plus particulièrement le Finistère, où une nouvelle dégradation pluvieuse arrive dans l'après-midi. Les températures, elles sont froides au nord demain matin, avec seulement 1 à 6 degrés. Nous aurons même des petites gelées sur les Ardennes. Sur le reste du pays, 6 à 12. Et puis dans l'après-midi, ça remonte et ça fait du bien. 19 à 23 au nord, 19 à Caen, 20 à Colmar, 22 à Paris et Saint-Etienne, et 21 à 26 degrés sur l'ensemble du pays. 24 à Limoges, 25 à Marseille, 27 à Perpignan. Et nous aurons même jusqu'à 28 degrés dans l'Hérault à Montpellier.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un tout petit instant, on prend des nouvelles de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir le président de Gosport. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 22h17, merci d'écouter Europe 1. Comme tous les soirs, on va s'intéresser maintenant à la bourse. Et c'est avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui repart en nette hausse ce soir dans le sillage du pétrole.
C'est reparti, Wall Street accélère, oui, le Dow Jones plus 0,56%, 23 883 points, et surtout le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, qui remonte nettement de plus d'1%, 1,13%, 8 809 points. Effectivement, c'est le baril de pétrole WTI américain qui est reparti en forte hausse de 16%, 24,50 $ ce soir le baril de brut. Les espoirs de redémarrage de l'activité avec le déconfinement progressif des économies occidentales soutiennent la tendance, de même que la baisse de production de certains pays. On a des valeurs très fermes ce soir sur le secteur pétrolier. Chevron gagne 1,6%, Exxon est très ferme, 44,80 $. Et puis du côté des technologiques, donc ça rebondit. Apple plus 1,5%, 297,56 $. Des hausses de l'ordre de 1 à 2% sur Microsoft, 180,76 $ sur Microsoft. Google plus 2%. Tesla reprend 1%, IBM 0,7%. Il y a l'euro qui ne profite pas de ce mouvement. C'est un petit peu la victime du jour. 1,0850, l'euro redescend nettement face au dollar. Le jugement de la Cour constitutionnelle allemande, qui a jugé inconstitutionnel certaines dispositions du programme d'achat d'actifs de la Banque Centrale Européenne, plombe l'ambiance avec un euro qui retombe à 1,0850 ce soir face au billet vert.
Et Didier, la Bourse de Paris a elle aussi regagné plus de 2% en clôture.
Et on s'est recalé, hein. Le CAC 40 regagne 2,4%, effectivement. 4483 points, forte hausse. Rebond aussi aidé par les publications trimestrielles du jour qui ont favorisé ce sursaut avec BNP Paribas qui a plutôt bien résisté à la crise malgré un recul de 33% de ses profits. Le bénéfice ressort quand même à 1,28 milliard d'euros au premier trimestre. Donc BNP Paribas remonte nettement de 5% ce soir. Et puis Essilor aussi regagne 3% après des comptes plutôt bien tenus. Le secteur pétrolier, évidemment, profite de la hausse du baril avec Total plus 8%, 32,91 €. De gros dossiers suivent le mouvement comme Capgemini, Ingenico, Rexel qui gagnent entre 6 et 8%.
Et puis exception du jour, le groupe Elior qui a reperdu du terrain.
Le spécialiste de la restauration collective a reperdu 1%, 5,75 €. Le groupe Elior a estimé l'impact de la crise sur ses résultats d'exploitation de l'ordre de 30% pour l'ensemble de l'exercice. Après la mise en place de mesures d'adaptation, le premier semestre a été plombé, évidemment. Le chiffre d'affaires a reculé de 5% à 2,45 milliards d'euros. Elior, ce soir, en baisse d'1%. Sur les autres places financières, ça remonte, ça rebondit nettement. Francfort, plus 2,5%. Milan, plus 2%. Madrid, plus 1,1%. Bruxelles, plus 1,8%. Et donc, le CAC 40 a regagné 2,4%, 4 483 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Toujours très complet, Didier Hamot de Boursier.com. Et il est temps de retrouver l'invité d'Emmanuel Duteil, ce soir le président de Gosport.
Bonsoir Philippe Favre.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Gosport. Gosport, c'est le numéro 4 du sport en France. Comment déjà, en ce moment, fonctionne Gosport? Jusque-là, vous ne faisiez quasiment rien sur Internet. Est-ce que ça vous a permis de vous développer un peu sur Internet?
Oui, tout à fait. On a vu une forte croissance de chiffres d'affaires sur Internet depuis la fermeture de nos magasins. Alors évidemment, ça ne compense pas le chiffre d'affaires de nos 250 magasins, mais ça aide en tout cas à apporter une animation à la marque et à l'enseigne. Et on voit quand même que dans les chiffres Internet, on voit beaucoup de produits de fitness, de sport à la maison qui ont été vendus au moins dans les premiers jours de confinement.
Oui, c'est ça. Vous avez vu que les gens ont eu au début au moins de bonnes résolutions et ont envie de faire du sport à la maison. Ça s'est un peu éteint au fur et à mesure.
Ah oui, clairement. Non, ça a duré assez longtemps. Ils ont acheté des tapis de course, des tapis de yoga, des vélos d'appartement. Et ce n'est que depuis qu'on voit que le déconfinement arrive que les ventes changent un petit peu et se déplacent plus sur des produits qui vont être là pour le déconfinement, des produits de running, donc de course, et du vélo. On sent que le vélo...
En revanche, vous ne sentez pas que vos clients se préparent à l'été? Les achats de maillots de bain, on les retient encore un peu?
Oui, complètement, parce que je pense que les clients ne savent pas encore où ils vont passer leur été. En tout cas, ils savent qu'à la rentrée, ils auront peut-être besoin d'un vélo pour aller au travail et ont besoin aussi de refaire un petit peu de course plus régulièrement. Donc, on sent ces produits qui se développent.
Ça, typiquement, les vélos, arrêtons-nous un instant peut-être là-dessus. Quelle est la progression que vous voyez? Et est-ce que vous avez également de gros achats sur les vélos électriques?
Alors, on a des fortes progressions sur les vélos électriques. On avait déjà constaté au moment des grèves, notamment en région parisienne. Donc on pense que ça va encore se développer. On commence à voir sur Internet ces ventes qui croissent. Vélo électrique, vélo VTT, vélo de ville. Et aussi accessoires, beaucoup d'accessoires de casques ou d'antivol par exemple.
Au moment de la reprise et de la réouverture, on va voir dans un instant comment vous organisez, mais vous attendez justement à une ruée sur les vélos. Vous en avez rentré plus que ce que vous auriez pu imaginer dans un temps normal?
Oui, tout à fait. On se prépare en tout cas à avoir une progression du chiffre d'affaires et des ventes sur les vélos et les accessoires qui tournent autour. Donc on se prépare dans nos magasins et on essaie de faire des opérations aussi plus promotionnelles pour les vélos parce qu'on pense que c'est un produit qui va fortement se développer à la rentrée, à la reprise en tout cas.
Alors la reprise, c'est quasiment demain, c'est le 11 mai pour vous. De façon très concrète, est-ce que ça y est, vous êtes prêt chez Gosport? Il y a des plexiglas partout, tout a été organisé?
Oui, on est prêt. Je pense qu'on peut dire que là maintenant, on a tout mis en place pour accueillir nos clients dès le 11 mai. D'abord, il a fallu préparer les magasins pour nos collaborateurs. Donc on s'est équipé en masque, en flacon gel hydroalcoolique, en flacon de désinfectant, des parois de plexiglas, comme vous le dites, pour les caisses et pour les ateliers vélo aussi, hein. Et aussi des casquettes visières. Donc voilà, tout un nombre d'équipements qui permet à nos collaborateurs de revenir travailler en toute sécurité, plus des protocoles sanitaires qu'on a mis en place, hein. Des formations, des aménagements dans les locaux sociaux et un cahier des charges par chaque poste. Donc de ce côté-là, on est prêt.
Malgré tout, dans des magasins comme vous, ce qui est important, c'est le conseil. On va chez Decathlon ou GoSport parce qu'on va être conseillé, par exemple, sur une raquette de tennis. Ça oblige à repenser l'expérience de vente ?
Oui, tout à fait. C'est surtout, en tout cas, comme vous dites, on a vraiment un rôle, on essaie d'être le coach de nos clients dans les sports. Donc, on se doit de garder cette posture-là, cette position-là, tout en gardant les distances de sécurité, mais avec un service qui doit être toujours présent. Donc il faut trouver le bon équilibre.
C'est-à-dire que vous avez formé vos vendeurs, vous leur avez expliqué comment demain, je prends l'exemple d'une raquette de tennis, mais ça pourrait être bien d'autres choses, comment demain ils vont conseiller le client ?
Oui, tout à fait. C'est surtout le respect des gestes barrières et des distances de distanciation sociale qu'on veut mettre en place. Je pense que la vente se fera de la même manière, mais en tout cas, elle doit se faire en gardant certains critères, certains positionnements par rapport aux clients. Donc,
Le groupe GoSport est un groupe qui a connu ces dernières années de nombreuses difficultés. Vous êtes là, je crois, vous, maintenant depuis une grosse année. Vous étiez là pour relancer l'entreprise. Vous aviez annoncé tout un plan de relance. Oui. On va surmonter la crise chez GoSport. Vous vous sentez capable de tenir ?
Oui, je pense que maintenant, on est assez serein sur comment passer cette période difficile. Je pense que les dispositions que l'État a mises en place nous ont beaucoup aidés, notamment évidemment l'activité partielle. On s'est préparé. Je pense que notre plan va reprendre. En tout cas, notre positionnement qui a été partagé avec toutes les équipes va être remis en place. En tout cas, va continuer.
Est-ce que votre plan, c'est vraiment d'être l'enseigne de sport, on arrête de faire du lifestyle, de la mode et ce genre de choses, on est le conseil de sport. C'était ça le plan de GoSport.
Exactement, c'est le coach sportif dans le client, avec un positionnement de donc sport, comme vous l'avez dit, de marque internationale, un positionnement urbain et un positionnement omnicanal. Et c'est vrai que cette période nous a permis aussi de nous positionner un petit peu plus dans l'omnicanalité et dans le fait d'être très fluide entre nos magasins et notre site internet.
Eh bien, un grand merci Philippe Favre, le président de GoSport, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous et on vous dit en effet à demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Covid-19, premiers espoirs dans la course au vaccin, titre Le Figaro. Alors que les malades guéris semblent bien immunisés contre un risque de réinfection, plus de 100 vaccins sont en développement pour renforcer le système immunitaire contre le virus. La course est lancée dans le monde entier pour trouver le plus vite possible une protection efficace. Réouverture des écoles, le casse-tête, titre Ouest France. Les modalités de la reprise après le 11 mai s'articulent autour d'un protocole sanitaire, désinfection des locaux, respect d'une distance physique entre les élèves, de nouvelles contraintes qui créent de l'anxiété chez de nombreux élus dont la plupart ne souhaitent pas rouvrir leurs écoles. L'urgence et l'espoir, titre le journal La Croix, qui lui aussi revient sur ces milliers de chercheurs mobilisés partout sur la planète pour trouver des traitements et des vaccins contre le Covid-19. Les banques et l'État nous abandonnent, titre pour sa part le journal L'Humanité, qui revient sur les faillites des petites entreprises. 60 000 TPE et PME sont menacées. 4 4 chefs d'entreprise témoignent dans le journal. À la une de Libération, demain une reproduction de l'une des versions du célébrissime Cri de Munch, Culture, la détresse, titre le journal. À l'arrêt depuis 2 mois et sans perspective rapide de reprise, le secteur est au bord du gouffre. Emmanuel Macron, resté longtemps silencieux sur ce sujet, doit faire des annonces très importantes demain. Culture, l'appel à l'aide, écrit également le Dauphiné Libéré, le monde de l'art et du spectacle suspendu à ces annonces du président. Et puis Chine, la montée des soupçons, c'est le titre des Échos. La propagande chinoise braque les Occidentaux qui réclament une enquête sur l'émergence du Covid-19. Le régime chinois, lui, s'inquiète d'une hostilité généralisée qui risque de remettre en cause ses plans d'investissement. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, il est temps de retrouver Olivier Delacroix, bien sûr, pour votre libre antenne sur Europe 1. Bonsoir Olivier.